La posture, on va dire, contestataire pour changer les traités ou changer l'approche, le président de la République française l'a eu au tout début de son mandat et il a assez rapidement changé son fusil d'épaule parce qu'il ne voyait pas de coalition européenne autour de ce projet-là. Le président de la République a plutôt mis en œuvre des politiques de réduction du déficit, c'est-à-dire de négocier à petit délai avec Bruxelles, mais garder la ligne qui est de réduire progressivement le déficit public. Cela continue avec le pacte de responsabilité qu'il a annoncé au tout début de l'année et qui devrait être mis en place par le nouveau Premier ministre.
On a entendu au moment de la soirée électorale et encore après, certains ministres comme Benoît Hamon, si je me souviens bien, qui disaient on ferait peut-être bien de s'inspirer de l'exemple de Renzi qui redynamise l'Italie en s'affranchissant un peu des questions des endettements. Est-ce que ce qui se passe en Italie actuellement n'a pas fait sauter un verrou qui pourrait aussi avoir une influence sur la politique française?
Alors, ça n'a pas tellement fait sauter de verrou. Il y a plusieurs zones politiques, en particulier à gauche du Parti socialiste, qui reprennent cette idée-là, qui essaie d'aller dans le sens du nouveau Premier ministre italien, dans la mesure où ces mêmes parlementaires ou ministres à gauche du PS avaient depuis longtemps l'idée de remettre en cause ou de modifier les traités européens tels qu'ils existent. Mais le président de la République, le Premier ministre, eux ne veulent pas entendre parler d'une renégociation des traités. Ils ne sont pas du tout en phase avec l'idée d'aller frontalement contre l'Allemagne, qui elle, verrait d'un très mauvais œil une telle politique. Je crois que ce que cherche à jouer aujourd'hui l'exécutif français, c'est l'idée que la Banque Centrale Européenne, étant donné le contexte macroéconomique, la faible inflation et l'absence totale de croissance en Europe, mettre en œuvre des mesures plus ambitieuses de soutien à l'économie, par exemple l'achat de titres publics sur le marché de la dette. Et la condition, on va dire, institutionnelle pour que la BCE puisse aller plus loin dans sa politique, ce soit justement que les États soient sérieux sur le plan budgétaire.
Donc là, pour vous, a priori, il n'y aurait pas de contradiction énorme entre les deux ministres de Bercy. La presse française parle beaucoup des différences de vue entre Montebourg et Sapin. Vous pensez que vous, les deux, pourraient s'accorder sur cette idée?
Alors ça, c'est un petit peu compliqué. Évidemment, Montebourg, on sait qu'il a, dans le passé, défendu d'autres thèses que celles du président de la République. Mais à mon avis, ce que le président de la République avait dans sa tête lorsqu'il a nommé Montebourg précisément à l'économie, c'est-à-dire qu'à cette place-là, il ne peut pas avoir de discours d'une certaine façon trop en dehors de la ligne, parce qu'il se crée automatiquement. Et donc, politiquement, si Montebourg veut rester ministre de l'économie, il faut qu'il mette de l'eau dans son vin. Donc je pense que c'est plutôt comme ça qu'il faut comprendre cette nomination, une façon de contrôler, on va dire, de limiter les écarts de conduite de M. Montebourg, plutôt que d'adopter les thèses qu'il a pu défendre dans le passé.
Bruxelles a placé la France sous surveillance renforcée en raison de son manque de compétitivité et de son déficit. Ça veut dire quoi très concrètement, placer un pays sous surveillance renforcée, et quelles sont les éventuelles mesures de rétorsion qui peuvent arriver?
Alors, dans l'ensemble des nouveaux cadres institutionnels qui ont été adoptés en Europe, en gros depuis la crise de 2010, il y a une surveillance qui n'est pas seulement budgétaire, qui est plus large, qui est macroéconomique, et qui regarde un certain nombre d'indicateurs, comme par exemple la balance commerciale, la compétitivité. Et c'est à ce titre que la France a été un peu pointée par Bruxelles, motif que la compétitivité, donc les exportations françaises, ne se portent pas bien. Mais évidemment, ici, il ne s'agit pas d'avoir un dispositif comme le pacte de stabilité de croissance avec des sanctions mises en œuvre si il n'y a pas une amélioration forte de la compétitivité. Il s'agit plutôt ici que la Commission européenne fasse des conseils de politique économique, soit un peu plus intrusive, peut-être discute plus la politique économique qui est suivie dans les pays qui dérapent pour leur compétitivité, plutôt que de dire vous devez impérativement réduire votre déficit public. Ça n'est pas ici l'objet.
Peut-être une dernière question sur Manuel Valls. On ne sait pas trop quelle est sa pensée par rapport à l'Europe. On sait qu'il avait plutôt été pour le non au référendum puis qu'il s'était ravisé par discipline. Est-ce qu'on sait quelle est sa position sur ces questions économiques?
Je crois que Manuel Valls, sa position est de ne pas en avoir. Il est sur un certain nombre de sujets économiques assez peu lisibles. Il avait défendu au cours de la campagne pour les primaires socialistes, il y a plus de 2 ans aujourd'hui, l'idée d'une TVA sociale, c'est-à-dire d'une amélioration de la compétitivité par la réduction des charges patronales et une augmentation de la TVA. Ce qui partie. D'ailleurs, mesure qui a plus ou moins été mise en œuvre, sous une forme un peu déformée, par le président de la République. Mais à part ça, on va dire qu'il ne s'est pas beaucoup mouillé économiquement, donc on ne sait pas bien quelles sont ses positions. Manifestement, ce qu'il fera, c'est de mettre en œuvre la politique dictée par le président de la République, c'est-à-dire la mise en œuvre du pacte de responsabilité, donc des réductions de charges d'entreprise et une réduction des dépenses publiques, et il n'ira pas au-delà.